Mes chers amis, j'aurais le goût de vous dire encore une fois, all aboard, en voiture, soyons en train, écrit en un mot, et soyons en train, écrit en deux mots, en route pour cette dernière tranche de notre voyage vers une interpellation fraternelle sur le renouveau indispensable de notre Église institution. Nous sommes dans la deuxième partie, et tout à l'heure, nous avons vu certaines remarques préliminaires, et passons maintenant à la section A de cette deuxième partie, intitulée « La solution des solutions ». Comment peut-on arriver vraiment, dans les plus courts délais et le plus efficacement possible, au renouveau spirituel en profondeur de notre Église institution? Eh bien, à mon avis, il n'y a pas 36 moyens. Il n'y en a pas une demi-douzaine. Il n'y en a même pas deux. Il n'y en a qu'un. Susciter un nouveau modèle de vie et de fonctionnement dans tous les rouages, articulations, centres d'études et d'action de notre Église institutionnelle. Et ce nouveau modèle, pour le bénéfice de cet exposé, je l'appelle une communauté chrétienne de relais. Depuis des siècles, l'Église a toujours fonctionné selon deux modèles bien connus. Le modèle de la vie monastique, principalement centré sur la prière et la contemplation, et le modèle de la vie active, axé sur des œuvres et l'apostolat. Tout cela est à garder, bien entendu. Mais à mon avis, il faudrait compléter ça par un troisième et nouveau modèle, où la vie d'engagement, d'œuvre, de fonctionnement en Église institutionnelle et le souci de la vie communautaire fraternelle, de prière, de partage de la foi, s'intègrent parfaitement. En fait, vous savez, ce n'est pas une recette que j'invente. C'est simplement un retour significatif à la vie décrite par saint Luc dans les Actes des Apôtres. Quand on dit au chapitre 4, verset 32, « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avaient qu'un cœur et qu'une âme », ou bien au chapitre 2, verset 42, « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières », tout cela ne s'appliquait pas seulement aux fidèles en général, mais également aux apôtres, à ceux qui étaient les leaders de ces communautés chrétiennes du début de l'Église. Or, jusqu'ici, on a tendance à vivre ça à part, ici et là dans l'Église, comme si c'était des vocations spéciales. On ne le voit pas vivre sous nos yeux d'une façon intense et significative dans nos structures opérationnelles, dans nos milieux hiérarchiques, dans nos milieux organisationnels. Et c'est là, je pense, que nous devons mettre l'accent. Il nous faut, si on veut ce renouveau en profondeur, intensifier et généraliser dans le train-train quotidien de la vie ecclésiale ce style de communauté chrétienne. Que ce style, que ces communautés soient pratiquées par ce que j'appellerai, passez-moi l'expression, tous les fonctionnaires de l'institution. C'est là la solution des solutions. L'heure n'est plus, à mon avis, à des discussions, à des analyses, à des études, à des dossiers, surtout pas. Il ne s'agit plus d'analyser quoi faire pour renouveler l'Église-institution, il s'agit de le réaliser. Et pour y arriver, il faut intensifier la communion fraternelle dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l'Église-institution. Intensifier le communautaire chrétien, et j'aurai l'occasion d'en décrire les ingrédients dans un instant, intensifier le communautaire chrétien entre ceux et celles qui étudient, délibèrent, organisent, décident, planifient, dirige, coordonne, agisse, administre, enseigne en Église. Donc, dans tous nos milieux où nous nous retrouvons, dans nos comités d'études et d'action, dans nos équipes pastorales, dans nos différents conseils, nos offices, nos services, nos commissions, nos secrétariats, au niveau des paroisses, au niveau des diocèses, au niveau des communautés, au niveau des œuvres, dans notre province, au pays, à Rome, partout. Il faudrait retrouver là des communautés chrétiennes de travail. Tout est là, mes chers amis. Je pourrais arrêter fort bien ici mon exposé. Il est facile de le prophétiser. Le jour où les évêchés, les conseils de communauté, les secrétariats d'épiscopat, etc., deviendront des communautés chrétiennes intenses, regroupant tous ceux qui œuvre dans ces milieux fonctionnels, le tour sera joué et le succès assuré. Pourquoi? Parce que le Seigneur entrera dans ces milieux par la grande porte. Car ses dévoués serviteurs, fraternellement regroupés en communauté chrétienne authentique, constitueront son meilleur comité d'accueil. Le Seigneur le dit, là où vous serez réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Mais attention, ce n'est pas là à interpréter dans un sens strict et simple, en voulant dire qu'il suffit d'être réunis au nom du Seigneur. Et on prend pour acquis que quand on se réunit dans un évêché, une commission pastorale, un secrétariat d'épiscopat, que c'est nécessairement pour le Seigneur, et que là, ça agit de façon extraordinaire. Quand on dit « réunis en son nom », c'est « réunis comme lui nous demande de nous réunir », c'est-à-dire priant ensemble, s'aimant ensemble, partageant, se pardonnant, s'entraidant, se ressourçant. Évidemment, quelques-uns peuvent dire « c'est bien beau en principe ». Mais comme je réponds toujours, si c'est beau en principe, croyez-moi, c'est encore plus beau en pratique. Et je crois, mes chers amis, que c'est vraiment praticable d'agir ainsi. Ayant moi-même bien connu et vécu ce style d'église institutionnelle au niveau de l'archevêché de Montréal, des évêques du Québec, de l'Assemblée des évêques du Canada, participant en diverses structures internationales, étant par conséquent assez au courant de ce qui se passe, de ce qui se vit, je n'hésite pas à affirmer Puis je pense que vous serez d'accord avec moi, si j'en juge par les échanges que nous avons eus au cours des diverses pauses café, que si on le veut, on le peut. Nous devons plonger dans cette direction. Vous savez, on vit un assez drôle de paradoxe. D'un côté, on passe notre temps à dire, eh bien, l'Église, c'est pas une institution comme les autres. Sa mission, ses œuvres sont bien différentes. Son mandat, son produit est unique. Et on a raison. Mais d'un autre côté, on imite et on adopte trop exclusivement, souvent, des méthodes d'action, pour ne pas dire de production, du monde en général. On agit comme si on était une institution comme les autres qui cherche sa rentabilité, son marketing. Et on n'est pas porté, comme on l'a vu tantôt, à donner aux moyens qui ont fait leur preuve dans l'Église toute la chance de se manifester encore. On sait la puissance d'une prière assidue. On sait la force de témoignage d'une communauté fraternelle modèle. On sait qu'une foi témoignée et partagée grandit, s'authentique, prend de la force. On sait notre devoir d'actualiser la parole du Seigneur. Et hélas, souvent par négligence, souvent par suractivité qui nous distrait de l'essentiel, on oublie l'importance de ces moyens. Et c'est là que la petite communauté pourrait nous aider et nous le rappeler constamment sous la mouvance de l'esprit. À quoi bon nous désarmer à citer la parole du Seigneur, l'exemple des apôtres et des saints, si au cœur de notre Église, dans sa vie quotidienne, dans ses activités concrètes, on n'en donne pas la démonstration éclatante. Notre message risque de sonner faux, et de ne pas convertir, et de ne pas conquérir, si on n'utilise pas nous-mêmes ces moyens que le Seigneur nous a enseignés et que nous ne cessons de recommander aux autres et de propager à travers le monde. Qu'est-ce qu'on penserait des employés de la compagnie Toyota? Si tout le personnel de Toyota voyageait en Volkswagen, si les gens qui veulent vendre des Cadillacs avaient toujours à leur porte des Ford, on dirait qu'ils n'y croient pas. Qu'il y en a un ou l'autre, d'accord, mais si l'ensemble ne semble pas du tout croire aux produits qu'ils recommandent, eh bien, vous pouvez vous imaginer que les ventes tomberaient à pic. Eh bien, ce troisième modèle de vie en Église, où la prière et l'engagement s'intègrent dans une vie communautaire, c'est la solution vers laquelle il faut se tourner. D'ailleurs, remarquez bien, je connais d'expérience des initiatives qui confirme cette affirmation. Des paroisses où le curé, les vicaires, l'équipe pastorale, les administrateurs, les animateurs, les agents pastoraux, tout cela forme une authentique communauté chrétienne. On voit la paroisse fleurir et porter du fruit, et du fruit qui demeure. Je connais certaines communautés religieuses dont le conseil provincial ou général n'est pas seulement une juxtaposition de personnes élues pour un mandat, mais forme une authentique communauté chrétienne. Et le Seigneur passe puissamment. La communauté s'édifie, se renouvelle sous le leadership efficace de cette communauté chrétienne. Je connais des comités de recherche, des comités de pastoral, ici et là, où grâce à l'audace spirituelle de leurs responsables, on fonctionne ainsi. Le Seigneur passe puissamment là où il est désiré, accueilli, écouté, prié, apprécié. À ce moment-ci, je voudrais juste attirer votre attention sur un instrument qui pourrait peut-être vous être utile. Il s'agit d'une petite brochure qui vient de paraître et qui sera à votre disposition. Si vous voulez l'obtenir, vous pourriez écrire aux éditions Pax Vobis, casier postal 1130, succursale Pointe-Claire, Pointe-Claire, province de Québec, H9S4H9. Cette brochure s'intitule « Les petites communautés chrétiennes d'espérance et de paix ». Chrétienne, C, espérance, E, paix, P. Alors on peut les appeler communément les communautés CEP, C-E-P. Dans cette brochure qui regroupe en 32 pages deux documents complémentaires, j'essaie de mettre en évidence les éléments constitutifs de la bonne dynamique d'un groupe chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une communauté chrétienne, une cellule chrétienne, une petite famille spirituelle chrétienne? Et pour synthétiser mes recommandations sur ce point, je m'inspire tout simplement des Actes des Apôtres. Quand on lit dans les Actes des Apôtres, du chapitre 2 au chapitre 5, il y a là trois ou quatre descriptions de petites communautés chrétiennes du début de l'Église. Et quand on en fait la somme, puis on en dégage les composantes, les ingrédients, on en retrouve 6 qui sont comme des constantes. Et pour nous aider de façon mnémotechnique à bien les retenir, je les ai regroupées autour des 6 lettres du mot « frappe ». Une communauté chrétienne doit être une communauté chrétienne de frappe, c'est-à-dire qu'il y a de l'impact, qui laisse son empreinte sur les membres et sur le milieu. Et si on prend les 6 lettres du mot frappe, F, foi partagée, R, ressourcement continu, A, amour fraternel exemplaire, P, prière communautaire assidue, l'autre P, pardon vécu, et E, entraide manifestée. Je vous le dis, mes chers amis, pendant 7 ou 8 ans, alors que nous avions discerné ces composantes dans la prière et que nous avons été incités au niveau de nos deux fondations, Pax Vobis et Que ton règne vienne, à les mettre en pratique, je peux vous dire que lorsqu'une communauté respecte ces 6 caractéristiques, elle laisse bel et bien une empreinte unique sur ses membres et sur le milieu, tant sa frappe permet au Seigneur d'agir avec puissance. Et vous en conviendrez avec moi, tout cela est éminemment praticable et devrait être pratiqué dans tout endroit de l'Église institutionnelle. Il n'y a rien qui s'oppose à ce que dans un secrétariat d'épiscopat, un office diocésain de ceci ou de cela, une commission pastorale, un évêché, tout le personnel, sous le leadership, soit de l'évêque, soit du vicaire général, soit du directeur ou de la directrice de l'œuvre, se retrouve et forme une authentique communauté chrétienne où on a le courage de partager sa foi, de se ressourcer, de s'aimer de façon exemplaire, de prier communautairement, assidûment, de se pardonner au fur et à mesure et de vivre dans un climat d'entraide. Mes chers amis, l'Église de demain, elle est là. Je puis vous dire que pendant ces années de réflexion, d'intense prière, de calme, d'écoute, d'observation et de consultation, j'ai senti dans mon cœur, dans mon esprit, et vu se confirmer dans les faits et la vie concrète de l'Église, cette nouvelle poussée, cette nouvelle verdure qui demain va gagner toute notre Église, ces nouvelles petites communautés fraternelles de chrétienté. Notre style actuel, où nous vivons chacun notre petite vie spirituelle, où nous sommes rassemblés par nos objectifs extérieurs à nous-mêmes plutôt que par notre courant d'amour fraternel et de sentiment d'appartenance à une même famille, ce style actuel que l'on retrouve dans trop de nos structures d'Église est dépassé, est démodé, est désuet et voué à disparaître. Je vous le dis, ceux et celles d'entre nous qui ont un sursaut d'avant-gardisme en Église, c'est le temps de le prouver. Veux pas, l'Église de demain trouvera sa force dans la renaissance et la prolifération et l'intensification d'une multitude de petites cellules regroupant chrétiens et chrétiennes dans leur quartier, dans leur travail, dans des regroupements où ils vivront ensemble. Et c'est cette Église communion qui se retissant en une communauté authentique va discipliner, exiger le renouveau spirituel de notre Église institution. Mes chers amis, c'est là que nous en sommes. Et c'est là que le Seigneur nous interpelle en cette année 83 à accepter son plan sur son Église et à lui demander la grâce non seulement de l'accepter, de le contempler, mais de s'y intégrer. Alors, voyons maintenant les caractéristiques de ces communautés de relais. D'abord, elles doivent être éminemment communautaires. Il ne suffit plus pour nous de vivre en simple équipe, en simple comité ou commission d'études ou d'action, même avec une excellente dynamique de groupe. Il faut que nous en arrivions à des communautés de travail, où les membres n'ont qu'un cœur et qu'une âme en lui, le Seigneur. Il faut qu'on se sente de plus en plus partie d'un instrument collectif, nouveau pour lui et qu'on arrive à en prendre conscience chaque fois, séance tenante. Réaliser qu'on n'est pas seulement une juxtaposition d'instruments individuels que le Seigneur s'est donné, mais que réunis communautairement, on s'offre comme tel, on se maintient comme tel, et on est en étroit rapport avec lui comme tel. Remarquez bien que ça n'enlèvera rien des richesses actuelles. Ça n'empêche pas les diversités d'opinions, de personnes, de procédés. Au contraire. Mais il nous faut savoir qu'il y a là, par le fait qu'on se regroupe et qu'on en prenne conscience et qu'on le vive comme tel, un tas de grâces à aller solliciter, à aller raviver, séance tenante. Pas une fois pour toutes, au début d'une assemblée, à la fin d'une assemblée ou d'un congrès, dans les grandes fêtes, mais à chaque fois qu'on est à l'œuvre dans son Église pour lui. Que les décisions, les délibérations, les déclarations, les actions, le choix des priorités et des politiques soient toujours, concrètement, pratiquement, quotidiennement, pour, par et avec lui, à travers nous. Bien entendu, il restera toujours bon que chacun de son côté continue à prier, à se préparer, à consulter et à étudier. Mais il nous faudra croire, lorsque nous sommes rassemblés en son nom, que la communauté doit être vivante, significative, et qu'il nous faut partager notre foi, prier, se ressourcer, s'aimer, se pardonner et s'entraider. Et que quand on fera ça, le Seigneur pensera beaucoup plus puissamment. Et notre ministère n'en sera que valorisé et sanctifié. Si jamais vous vous procurez la petite brochure à laquelle j'ai fait allusion, vous verrez que sur la couverture, un artiste a dessiné ce qu'on appelle aujourd'hui des soucoupes terrestres, c'est-à-dire des antennes paraboliques, des antennes satellites, qu'on voit à côté des maisons, sur les toits. Ça a la forme d'une grande soucoupe tournée vers le ciel. Eh bien, ces communautés chrétiennes, j'ai voulu les illustrer de cette façon parce qu'elles sont précisément les meilleurs instruments pour permettre à leurs membres de capter pleinement le Seigneur et son Église. Et après les avoir captés, de les transmettre puissamment dans le monde à évangéliser. Se réunir, discuter, faire des recherches, planifier, ne conduit pas toujours à la communion et à la communauté fraternelle. C'est même souvent le contraire, parce que les risques de former des clans, des ligues, des oppositions, de s'affronter, se multiplient. Mais là où il y a d'abord la communion fraternelle assurée, ça conduit toujours à un style de réunion, de recherche, de délibération, de planning, de concertation qui favorise le maximum de résultats et d'efficacité avec le minimum de fatigue et de contrariété. Il nous faut donc commencer par former ces communautés, les alimenter. Et dans la conférence inaugurale à cette série de réflexions et d'interpellations, qui était intitulée « Le vrai de vrai renouveau de l'Église », ceux et celles d'entre vous qui les ont écoutés, vous vous rappellerez fort bien que j'ai dit à un moment donné, d'une façon prophétique, que partout en Église, où on serait assez audacieux pour remplacer un quart de nos activités sur le temps dit du travail, pour planter cet arbre et le nourrir, cet arbre de la communauté chrétienne, je n'hésite pas à dire que très rapidement, 40% des activités actuelles tomberont dû au fait de la plus grande efficacité du groupe dans son travail. Et pourquoi? Parce qu'on deviendra plus perspicace, plus prudent, plus efficace, plus nuancé, mieux adapté. Parce que le Seigneur, agissant à travers cette communauté, développera les dons, les vertus et les charismes qui multiplieront les efforts de chacun. Alors, deux mots importants au cœur de ces communautés, les mots qu'on retrouve dans les Actes des apôtres, assidu et le mot unanime. Dans les Actes à 2:46, je suis frappé par la répétition du mot unanime. Unanime, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple, rompaient le pain à domicile, louaient Dieu. Donc, unanime sur l'essentiel. Actes 4, 24, on les écouta, puis tous, unanimes, s'adressèrent à Dieu en ces termes, donc séance tenante. Actes 5, 12, ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon, donc front commun, apôtres et croyants. Actes 15, 25, nous avons décidé unanimement de choisir des délégués que nous enverrions à Antioche avec Paul et Barnabas. Donc, unanimité, recherché, obtenu et proclamé, pas tellement sur les structures et les façons de procéder, mais unanimité en lui, avec lui et pour lui. On constate également dans les Actes, au chapitre 5, 11, que le mot « Église » apparaît pour la première fois dans le récit de Saint-Luc, seulement après qu'il a caractérisé le groupement des disciples de Jérusalem comme un groupement qui vivait dans la communion, la foi au ressuscité, un groupement qui rendait un témoignage apostolique et qui était animé par l'Esprit. Alors, mes chers amis, ces communautés de relais, c'est là qu'on doit chercher la solution des solutions. Et je précise, même s'il va sans dire, très clairement, qu'il ne s'agit pas de supprimer les recherches, les études, les comités d'action, les déclarations, les textes, les interventions, mais simplement d'améliorer notre modus procedendi. Une deuxième caractéristique de ces petites communautés, de ce nouveau modèle de fonctionnement en Église, c'est que la foi doit s'exprimer et se partager entre ceux et celles qui travaillent ensemble. Comme je l'ai dit dans la deuxième section de l'autre exposé, on prend trop pour acquis que les hommes et les femmes d'Église sont nécessairement des hommes et des femmes du Seigneur. On prend trop pour acquis que parce qu'on se réunit dans un évêché, un monastère ou un presbytère, c'est ipso facto une réunion qui se fait pour, avec et dans le Seigneur. On prend trop facilement pour acquis. Qui dit prêtre, qui dit laïc engagé, qui dit religieux, religieux, c'est nécessairement un croyant, un pratiquant, un professant. Et, par voie de conséquence, on n'extériorise pas ou trop peu sa foi en cette terre familière où elle pourrait se discerner et croître. Il serait idéal pour les gens qui travaillent dans un même évêché, un même secrétariat, qui passent 8, 10, 12 heures ensemble par jour, de partager entre frères et sœurs leur foi. Ces échanges permettraient de discerner, de croître, de purifier, d'intérioriser, d'actualiser, de parfaire leur foi. Et quand je dis un partage, pas un partage de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu ou même de ce qu'on a vu, mais de son vécu dans la foi. L'important, ce n'est pas de se raconter des histoires édifiantes à propos du Seigneur, mais c'est de pouvoir partager avec ses frères et ses sœurs son histoire spirituelle en cours avec le Seigneur. De trouver un milieu où on est assez à l'aise pour partager ses questions, ses options, ses réactions, et pourquoi pas, ses difficultés, ses doutes. Une foi également qui ne reste pas en l'air, dans le vague. Qu'on puisse partager sa foi dans sa mission d'Église, dans celui pour qui on travaille, avec qui on travaille. Sa foi dans les moyens mis à notre disposition en tant que chrétien et chrétienne. Notre foi aux promesses faites. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, est-ce qu'on y croit? Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Est-ce qu'on y croit? Soyez en paix, faites-vous pas de soucis. Est-ce qu'on y croit? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on a foi en toutes ces choses-là, en la puissance du message, en l'action de l'Esprit-Saint? Vous savez, on se sèvre souvent des meilleures choses, alors qu'on les recommande et qu'on essaie de les mettre à la disposition des autres. Cette personne que j'ai mentionnée, qui faisait partie de notre équipe, Isabelle Gauvin, et à qui le Seigneur avait donné, entre autres dons spirituels, un don prophétique, m'avait fait une prophétie en 1971, alors qu'elle travaillait au secrétariat de l'Épiscopat, dans notre équipe. Et je l'avais noté à ce moment-là, et j'ai presque la douleur de dire qu'elle s'est confirmée à la lettre par les événements qui ont suivi. Mais c'est une prophétie qui était particulièrement énergique, elle disait ceci: dans nos milieux d'Église, on parle si peu spontanément, si peu fréquemment et si peu chaleureusement de Jésus-Christ, que je vous le dis, un jour viendra où on voudra faire une déclaration sur Jésus-Christ, un message sur Jésus-Christ, et on aura toutes les misères du monde à s'entendre. Et vous voyez l'expression « les misères du monde à s'entendre ». Dans l'Église institution, vous le savez autant que moi, là, vous, on se connaît que peu ou pas spirituellement les uns les autres. Il n'y a rien de plus embarrassant parfois quand on est consulté pour concernant des nominations ou des choix d'évêques. On peut bien dire, c'est quelqu'un qui semble prier, c'est quelqu'un qui a une bonne conduite, de bonnes mœurs, mais c'est très rare qu'on puisse se prononcer sur la qualité spirituelle profonde des candidats ou des candidates. Pourquoi? Parce qu'on vit trop à part les uns des autres. Et on peut passer des années, croyez-moi, et je pense que vous pourriez appuyer cette réflexion, on peut passer des années dans un même évêché, dans un même secrétariat d'épiscopat, dans une même œuvre, avec des confrères et des consœurs, à faire du bien en Église, puis à n'avoir jamais pu sonder le fond de la vie spirituelle et religieuse de nos frères et sœurs. On a parlé d'une année d'intériorité de la foi. Je pense qu'on serait dû pour une année d'extériorité. Apprendre à extérioriser notre foi, notre amour du Seigneur, et à corriger, j'allais dire notre défaut, mais je pourrais dire notre vertu de trop grande discrétion spirituelle. On est les premiers, vous le savez comme moi, à dénoncer ceux qui, dans le monde, séparent leur pratique confessionnelle, religieuse et leur vie courante. Or, nous, en Église, il ne saurait y avoir de place pour une séparation entre notre profession et notre confession. Il faut que notre foi prime, s'exprime, s'imprime. Il n'y a aucune raison pour qu'elle se réprime. Troisièmement, il faut que cette petite communauté chrétienne soit animée et soutenue par une vie de prière intense et fréquente ensemble sur le temps dit du travail. Il ne s'agit pas d'en faire un groupe de prière comme tel. Il ne s'agit pas de suivre un modèle plus qu'un autre, le modèle charismatique, coursiliste ou foi et partage, mais tout simplement le modèle qu'on trouve dans les Actes des apôtres, où chacun est invité à prier selon son inspiration, dans son style, dans ses paroles. Il nous faut une prière par conséquent qui s'engage, un engagement qui se prie, une prière et un engagement qui se lit. Et c'est comme ça qu'on pourra discerner avec lui nos options, nos déclarations, nos actions. Et ces prières, mes chers amis, elles doivent être aussi abondantes, aussi spontanées que nécessaires. Il ne s'agit pas, comme groupe, de prier au compte-gouttes pour la forme, mais de se situer vraiment dans un état de prière.